RMC. Grand Plateau. Christophe Cessieux.
Salut à tous. Liège-Bastogne-Liège est décidément une course maudite pour Julien Alaphilippe. Après avoir tourné autour de la victoire depuis 5 ans, le champion du monde français a pensé peut-être son heure arriver ce dimanche. Malheureusement pour lui, eh bien, il a fini à l'hôpital après une chute spectaculaire qui aurait pu avoir de très lourdes conséquences. On prendra de ses nouvelles dans quelques instants. Alaph dans le mal et dans le dur, pendant que son jeune coéquipier Remco Evenepoel triomphe à 22 ans et pour sa première sur la course, le jeune champion belge s'est offert la doyenne. On reviendra sur sa victoire, on se demandera s'il faut désormais le considérer comme le grand rival de Tadej Pogacar. Si Alaph et les autres coureurs français ont connu un dimanche compliqué, la semaine en revanche a souri à Thibaut Pinot. Après 1007 jours de frustration, le champion français Eureka a enfin renoué avec la victoire en remportant la dernière étape du Tour des Alpes. Quelle valeur faut-il donner à ce succès et va-t-il tout changer pour Thibaut là aussi? La team Grand Plateau ouvre les débats. Plein de questions et tout autant de réponses. Ça tombe bien parce que le druide, vous le savez, a réponse à tout. C'est pour ça qu'on l'aime. Salut Cyril.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, réponse à tout. Oui, si vous me posez une question dont j'ai la réponse.
Oh, mais t'as toujours les réponses. Pour lui apporter la contradiction ou lui amener les bidons, ça dépendra des circonstances de course. Vous pouvez aussi compter sur Arnaud Souk et Julien Landry, nos Fiori Classe. Salut les garçons.
Salut les amis.
Moi, je débute, j'emmène que les bidons.
Moi, il est hors de question.
Pas de contradiction avec Cyril pour le moment.
Hors de question que j'emmène le moindre bidon à Cyril.
Tu n'amènes plus les bidons à ton leader, c'est terminé.
Bah non, attends. Non.
Moi, j'emmène les bidons.
C'est mon directeur sportif, je vais aller chercher la voiture. Je rigole. J'espère qu'il met de l'eau dedans, par contre.
Très bien, allez, retour tout de suite. Oui, je sais pas ce qu'il met dans l'eau. Il met de l'eau, oui, mais il n'y a pas que de l'eau.
Il met allez, des herbes, ça va.
Retour donc sur cet incroyable dimanche sur la doyenne, sur les routes ardennaises. Et oui, parce qu'on espérait un succès de notre champion du monde sur les routes de la doyenne, mais ce dimanche, à 60 km de l'arrivée, le mauvais sort s'est donc une nouvelle fois abattu sur les épaules de Julien, pris dans une chute collective, dans une descente qui précédait l'ascension du col du Rosier, descente des vallées à 80 km/h, et à cette allure-là, les chutes sont rarement anodines. Arnaud, tu étais à l'arrivée à Liège, on n'a pas bien vu ce qui s'était passé au moment de la chute, il a ensuite fallu beaucoup de temps avant de réaliser que Julien était parmi les victimes.
Oui, alors ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est effectivement cette chute. On a vu beaucoup de coureurs au sol. C'était franchement une scène qui était complètement frappante et on y reviendra parce que ceux qui l'ont vécu ont bien sûr été encore plus frappés que nous autres qui l'avons vu à la télé. Par contre, on a cherché dans le premier peloton. On se disait, tiens, on voit pas la tunique de champion du monde de Julien Alaphilippe. On a vu un deuxième groupe rentrer sur ce premier peloton dans lequel il y avait notamment Valentin Madouas. Là encore, on n'avait pas de Julien Alaphilippe. On s'est dit, c'est quand même bizarre de ne pas voir Julien Alaphilippe jusqu'au moment où on a vu un ralenti, une vue d'hélicoptère où on semblait apercevoir vraiment dans un coin de l'image Romain Bardet à descendre dans le fossé vers un coureur qui avait manifestement une tunique claire avec un maillot irisé. On a compris après plusieurs revisionnages que c'était Julien Alaphilippe à ce moment-là qui était touché. On s'est dit, waouh, il est auprès d'un arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être très grave. On a vu quand même assez rapidement sur les images qu'il bougeait les jambes, en tout cas, comment il essayait de bouger les jambes pour soulever son vélo.
Vous a informé de la situation ou
Alors, nous, on n'avait pas Radio Tour, en tout cas, à l'arrivée. Je ne pense pas que Radio Tour ait informé de la situation, puisque finalement, c'est la compagne de Julien Alaphilippe, c'est Marion Rousse,
qui commentait la course pour France Télévisions.
Qui a donné les premières nouvelles de Julien, expliquant qu'il était conscient, qu'il était touché au dos, qu'il avait très mal et qu'il avait été évacué en ambulance vers un hôpital. Voilà, on a prendra après, et notamment pour avoir discuté avec son cousin, son entraîneur Franck Alaphilippe, donc Julien a heurté à 80 km/h l'arbre, à 50 cm près, il aurait pu ne pas le heurter et repartir finalement sur son vélo, il en plaisantait presque Julien, en ayant son cousin et entraîneur au téléphone, mais voilà, il a heurté l'arbre, c'est là que ont été causées les différentes fractures, au niveau des côtes, au niveau de l'omoplate, et là Cyril pourra en parler mieux que moi, la fracture notamment aux côtes, a perforé le poumon en fait, d'où le pneumothorax. Maintenant, reste à savoir combien de temps il va falloir qu'il mette pour s'en remettre.
Alors on y reviendra dans un instant. On va quand même écouter la réaction de Romain Bardet, parce qu'il a été donc le premier à aller secourir Alaphilippe. Il n'est ni médecin de la course, ni même l'un des coéquipiers d'Alaph, mais tout de même son équipier en équipe de France, Romain Bardet, qui a tout de suite compris que ce n'était pas une chute anodine pour le champion du monde.
J'ai eu très peur pour Julien, je tombais de son côté avec lui, je l'ai vu 3 mètres en contrebas et il me dit je peux pas bouger. Et personne n'est arrivé, ça a duré une éternité, j'avais vraiment peur. Je ne pouvais plus bouger et non, c'était vraiment des scènes qu'on ne veut pas voir en vélo. Il ne faut surtout pas le toucher dans ces cas-là, j'ai essayé d'appeler du monde mais les voitures étaient bloquées, ça a mis une éternité. C'est peut-être que 4-5 minutes mais j'ai cru que c'était vraiment choquant comme scène. Ça m'a vraiment... Je ne fais pas du vélo pour vivre des... Voilà, il y avait des mecs partout par terre, c'était plus une course alors. suis encore sur l'émotion, excusez-moi, parce que c'était vraiment...
On sent beaucoup d'émotion, même de frayeur dans la voix. Oui. Il faut noter que cette interview a été réalisée 2 heures après l'accident.
Oui,
hein, Romain.
2 heures
et
après.
Il était encore choqué parce qu'il l'avait vu.
En fait, à ce moment-là, pour vous dire les coulisses, j'étais dans le paddock. J'étais avec Bruno Armirail à ce moment-là, qui a été l'un des animateurs français de la course. Et puis je me suis retourné, j'ai vu Romain Bardet, mais vraiment l'air hagard, qui déambulait comme un fantôme en fait dans le paddock en attendant d'aller chercher de retrouver un de ses assistants. Il faut signaler que Romain Bardet, lui aussi, donc pris dans la chute, n'a pas fini la course. Il aurait pu repartir sur le vélo, mais il a préféré finir en voiture. Il était complètement hagard. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, il va jamais vouloir me parler, c'est pas possible. Il avait vraiment les yeux rougis par l'émotion. Enfin, c'était assez lunaire. C'est une scène qui a duré 2 minutes. J'ai rarement vu un coureur aussi touché.
Ouais.
Cyril, imagine qu'il puisse être choqué. Déjà, pour pas avoir repris le vélo, être allé voir directement Julien, je pense qu'il a dû aussi avoir très peur sur le coup. Et ce qui explique aussi peut-être qu'il ne soit pas reparti, mais qu'il ait prêté finalement la première attention à Julien. Et je pense que voilà, toute l'émotion retombée 2 heures après, c'est sûr que ça devait être assez choquant comme scène. Et qu'il remonte pas sur le vélo alors que lui n'est pas forcément le plus lourdement impacté, prouve aussi l'impact psychologique que cette chute a pu avoir sur Romain.
Ouais, mais à noter aussi la solidarité, hein. Romain oui. Bardet n'est ni le coéquipier, ah si, en équipe
de France.
Mais voilà, cette image fait chaud au cœur quand même, Cyril, de voir Bardet aller secourir Julien, les coureurs français, cette solidarité.
Oui, mais d'un autre côté, elle est aussi compréhensible. Je crois que n'importe qui, devant une situation dramatique, ne va pas hésiter à faire un certain nombre de choses qui peuvent paraître anormales, mais qui sont normales à chaud. Après, on peut tout expliquer après. Le fait qu'il soit choqué 2 heures après me paraît aussi quelque chose de tout à fait logique. J'ai eu la même chose... sur un Milan-San Remo, gagné d'ailleurs par Laurent Fignon, où Thierry Marry avait plongé dans un ravin dans la descente de la Chipresa. Bon, il a quand même eu 75 points de suture sur la tête, et il a fallu le remonter. Tant que j'ai été dans l'action, jusqu'au moment où on l'a chargé dans l'ambulance, tout était parfait. Je ne me posais pas de questions, voilà. Et je suis remonté dans la voiture, et au bout de 300 mètres, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il y a radio autour, j'entendais parler de Fignon, mais je ne savais pas pourquoi, et j'avais les pieds qui dansaient sur les pédales. Donc à partir de ce moment-là, je me suis mis à 20 à l'heure dans la descente du col, et je ne pouvais pas aller plus vite. C'est-à-dire que vous avez cette réaction après, à chaud, en fonction des circonstances, je crois que n'importe qui y va. Et Romain qui se trouve là, et puis sont des coureurs qui ont aussi un petit peu d'affect, mais rien ne dit que les autres coureurs ont vu Julien Alaphilippe.
Oui, parce qu'il était en décalé, il était une dizaine de mètres devant les autres.
Et vraiment en contrebas dans un fossé.
Et,
hein.
Et il est complètement en dehors de l'ensemble, on va dire, du groupe d'une vingtaine, trentaine de coureurs qui sont allongés des deux côtés de la route. Lui, il est tout seul, isolé dans un coin. Il faut que ce soit quelqu'un qui le voit et qui comprenne que c'est pas anodin, quoi. Ouais. Et là, Romain a eu les bons réflexes. Repartir après, à partir du moment où vous vous arrêtez pratiquement 2 minutes, puisqu'on le voit appeler les voitures, il est plus dans la course du tout. Et puis, je crois que s'il remonte sur le vélo, il va rouler à 15 à l'heure.
On se souvient d'un Romain Bardet victime d'une chute dans le Tour de France, sonné par sa chute personnelle,
sonné par sa chute,
et qui reprend le vélo, mais complètement perdu à ce moment-là.
Et pour autant, alors là, il avait été victime d'une commotion. Ouais. D'ailleurs, il avait déjà été victime d'une commotion plusieurs mois auparavant qui ne lui avait pas encore été diagnostiquée. Bref, Romain Bardet, hier, en plus, m'a expliqué que finalement, la dernière fois qu'il avait vu ça, et ça va vous parler, messieurs, vous qui y étiez, c'était la chute de William Bonnet sur le Tour de France. C'était en quelle année ? C'était en 2011.
Il y a quelques années, c'était sur une grande ligne droite. Mais ça allait vite ce jour-là. Mais j'ai l'impression qu'hier, ça allait encore plus vite parce qu'on était dans une descente. Ouais. 80 km/h, imaginez, les gars.
C'est ce que dit Romain Bardet. Alors, certains disent 60 km/h, mais enfin bon, à très haute vitesse.
80, ouais, ça allait très très vite. Cyril, à cette allure-là, les conséquences peuvent être très très graves, même si on peut se faire très mal aussi à 10 ou 15 km/h. Mais là, à 80, quand ça tape.
Le problème, c'est pas de rouler à 80 km/h, c'est de ne rien rencontrer.
Eh oui, c'est ça. Et là, quand il y a
quand vous voyez William Bonnet, parce
en
que sur cette chute, il n'y a pas eu de chose extraordinaire, à part William Bonnet, parce que lui, il a pas percuté. C'est lui qui tombe le premier. Hein. Mais il y a quelques vélos qui lui sont passés sur le dos. Et là, effectivement, des vélos qui arrivent à 60, 70, et sur le vélo, il y a un bonhomme. Là, ça fait mal et c'est là où il a eu des blessures relativement graves. Donc, quand vous tombez, si vous tournez, que vous glissez, bon, vous enlevez du vernis, éventuellement vous avez une clavette, éventuellement un poignet, bon. Mais c'est à partir du moment où vous allez taper dans quelque chose, une bordure de trottoir, un arbre, plonger dans un ravin comme Evenepoel et d'autres également, c'est à partir du moment où vous êtes stoppé par un obstacle, là vous arrivez avec votre pleine vitesse et ça fait très mal. Rappelez-vous par exemple Chris Froome dans un contre-la-montre sur le Critérium du Dauphiné où il va taper dans le mur, là effectivement c'est dramatique derrière.
Ouais. Alors on l'a entendu, les conséquences sont graves puisqu'il y a ce pneu motorax, il y a des côtes cassées, mais évidemment, on a évité le pire, Julien a évité le pire. Malgré tout, on se demande un peu quelle va être la suite de sa saison, Arnaud, et c'est encore un peu tôt peut-être pour se prononcer.
À l'heure où on se parle et à l'heure où on enregistre cette émission, je n'ai pas les détails des examens que Julien Alaphilippe a passé ce lundi, des examens complémentaires en plus de ceux qui lui ont diagnostiqué hier la double fracture des côtes, le pneumothorax et un souci au niveau de l'omoplate, une fracture également. Il devait donc passer un scanner notamment et des examens plus poussé aujourd'hui. On en saura très certainement plus en milieu de semaine. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que pour l'instant, il garde le moral, Julien Alaphilippe. Il se projette pas sur la suite de la saison, mais il est plutôt d'un ton joyeux. J'allais presque dire heureux, finalement, de pas être plus touché que ça. Ce qu'on peut dire, et là, Cyril en parlera mieux que moi parce qu'il a l'expérience, c'est que quelle que soit la durée d'arrêt de Julien Alaphilippe, qui n'ira probablement pas faire le stage en Sierra Nevada avec son équipe au mois de mai, il va falloir compter derrière un temps pour se remettre en état de forme qui sera bien supérieur à la durée de son arrêt. C'est-à-dire que si on imagine un arrêt d'un mois, il lui faudrait peut-être deux mois pour revenir tout à fait en forme. Or, le Tour de France, dans 65 jours, le départ.
Exactement.
Ouais. Voilà.
Donc, donc ça semble quand même un peu mal barré cette histoire. Hein.
Après, il peut très bien s'aligner sur le Tour de France en méforme au début du Tour et arriver en pleine balle à la fin.
Oui, mais on sait que Julien, justement, est plutôt un homme de début de Tour de France. C'est un peu le souci, quoi.
Et surtout avec le parcours qu'il a tracé cette année, ça lui correspondait bien, effectivement.
C'est terrible.
Mais bon, c'est vraiment le cadet de ses soucis à l'heure où on se parle.
Oui, bien sûr.
Oui, non, mais je pense que dans l'immédiat, qui garde le moral, c'est bien. C'est même très bien parce qu'il faut relativiser les choses en se disant, bon, ça aurait pu être pire. D'un autre côté, on pourrait dire, bon, il aurait pu ne rien avoir. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais là, son temps d'arrêt minimum, compte tenu des différentes blessures que l'on vient d'évoquer, sera au minimum de 3 à 4 semaines avant de reprendre un véritable entraînement. Ce qui veut dire qu'il reprendrait l'entraînement en début juin. 30 jours après, vous ne pouvez pas être au départ du Tour. Alors, on peut l'être en méforme. Sauf qu'en méforme, il ne faut quand même pas oublier qu'on part du Danemark, là-bas, qu'il va y avoir pas mal de vent, des bordures, peut-être de la pluie, les pavés qui vont arriver derrière. Non, ce ne serait pas sérieux.
Bon, et ben voilà, vous nous avez bien plombé. Merci Cyril, nous
avons
plombé
des alors, n'annonçons pas que Julien Alaphilippe ne sera pas sur le Tour de France, parce que en l'état actuel des choses, lui-même ne le sait pas plus lui que son entourage que nous d'ailleurs.
Bon,
on a compris qu'en tout cas, s'il y est, il ne sera pas en forme.
Ouais.
Pas au top.
S'il y est, ce sera un miracle, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et s'il remporte une étape, alors là, voilà. N'en parlons pas. Et remporter le Tour de France, bon. Bref. C'est vrai que pendant longtemps, on a dit, je me rappelle, que Julien était un acrobate sur un vélo. Or là, depuis le début de la saison, c'est trois gamelles. Alors, je sais qu'il y a la faute à pas de chance, ça a été le cas, on en parlait tout à l'heure avant l'antenne, Arnaud, à chaque fois, c'est pas du tout de sa faute.
Les trois chutes,
hein. il est jamais responsable de la chute. Hein,
non,
si vous
non mais les trois chutes là qu'il a vécues, effectivement, il n'y a pas de responsabilité.
Si vous prenez celle de Strade Bianche, c'est un coureur qui touche une roue à droite de la route, enfin à droite du peloton, et qui va traverser tout le peloton, emmenant plusieurs coureurs. Et Julien, là, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas éviter, puisque le coureur va glisser, va se présenter devant lui, il va le percuter, il va faire d'ailleurs une superbe...
belle acrobatie.
un superbe salto avant. Il a le réflexe, comme il n'a rien, même de ressauter pour éviter que quelqu'un lui tombe sur le dos. Et puis en Belgique, à la flèche brabançonne, là, c'est c'est son directeur sportif qui met en difficulté c'est Coquard, enfin qui vient toucher Coquard en doublant sur la ligne d'arrivée, enfin dans la ligne droite d'arrivée, il restait un tour, qui vient toucher Coquard, qui est obligé de faire un écart, et ça va faire strike à droite, et là Julien, qui est le long des balustrades, eh ben, ne peut absolument rien faire pour l'éviter. Dimanche, c'est un peu la même chose. Alors on peut parler de croyance, de tout ce que l'on veut. Le problème, c'est que d'habitude, il est plutôt à côté de la chute, et depuis le début de l'année, il est au cœur de la chute. Effectivement, ça change le résultat.
Tu dis souvent, pendant le Tour de France, Cyril, que même si c'est pas sa faute de chuter, ça dénote quand même peut-être ou un petit problème dans la tête ou un manque de forme. Est-ce que tu gardes toujours cette analyse ou alors c'est vraiment la faute à pas de bol ?
Quand on analyse toutes les périodes des sportifs, en règle générale d'ailleurs, si vous prenez dans le foot un joueur qui commence à être blessé, souvent il est blessé toute la saison. Et à chaque fois, on va dire, bon, c'est un tac, non mais là, il s'est mal réceptionné. Je pense qu'à partir du moment où on est moins bien physiquement, si on commence à douter, on est plus facilement là où il va y avoir des soucis. On a un manque d'attention, un manque de vigilance, et c'est ce qui peut expliquer le fait que d'un seul coup, on ait des séries comme ça, où on est pris dans tous les coups, on crève au moment où il ne faut pas crever, on sort dans l'échappée, l'échappée va se tromper de route. Enfin, vous avez plein de circonstances qui font que, sur une période, vous êtes toujours à l'envers, et malheureusement, vous êtes aussi dans les chutes. Alors, est-ce qu'il y a une relation directe ? Ça n'a jamais été démontré, mais il semble quand même que lorsqu'on est en période de doute, c'est quand même plus fréquent.
On tombe plus souvent. Bon, évidemment, on souhaite un prompt rétablissement à notre champion qui est pas verni quand même depuis le début de la saison et qui risque d'avoir du mal à briller dans les semaines qui viennent. Le Wolfpack, privé donc de son loup dominant à 60 km de l'arrivée, mais dans la meute, il y a toujours un jeune loup aux dents longues pour suppléer le patron, et ce loup se nomme Remco Evenepoel, qui a 22 ans, et pour sa première participation, c'est donc offert la doyenne.
Remco Evenepoel, la victoire d'un jeune prodige, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de Tadej Pogacar, mais la nouvelle génération du vélo est clairement marquée aussi par celui que l'on surnomme le nouvel Eddy Merckx, Remco Evenepoel qui va s'imposer aujourd'hui.
Il secoue la tête, il n'y croit pas, Remco Evenepoel, passé pro à 18 ans, annoncé comme le futur grand du cyclisme belge, et il remporte aujourd'hui Liège-Bastogne-Liège.
La main sur le cœur, Remco Evenepoel qui gagne aujourd'hui Liège-Bastogne-Liège, premier Belge à s'imposer depuis Philippe Gilbert, le premier monument sans doute d'une longue série.
Je suis vraiment vraiment fier, ma course préférée de l'avoir gagnée dans ma première participation, c'est incroyable.
Voilà, victoire magistrale pour le jeune Belge. C'est pas donné à tout le monde de triompher de la sorte dans cette course très sélective qui ne sauve qu'au meilleur. Cyril, Remco a vraiment marqué les esprits ce dimanche. Il était le plus fort, s'est échappé. Personne a pu s'accrocher à la roue du TGV belge.
TGV, oui, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. À partir du moment où il est sorti dans la redoute, il a creusé tout de suite les écarts. Et alors qu'on n'avait pas l'impression qu'il roulait vite, sauf que derrière, tout le monde a sauté. Et puis les difficultés qui restaient, il les a montées avec beaucoup de sérénité aussi. Il ne s'est pas battu dedans. Derrière, c'est revenu à un moment quand même à une quinzaine de secondes, pas de problème. Il a basculé. Et il a fini comme avec non plus un TGV, mais deux TGV en même temps. Derrière, il a écœuré tout le monde. Mais ça, on savait qu'il savait le faire. Et il l'a fait depuis les juniors. Il l'avait fait d'ailleurs au trophée Centre Morbihan en Bretagne qu'il était venu courir, course junior, où les coureurs l'ont vu le matin au départ, ils l'ont vu sur le podium à l'arrivée. Evenepoel, on a parlé tout à l'heure de sa chute sur le Tour de Lombardie, qui a marqué un tournant quand même dans sa carrière, car à ce moment-là, il était intouchable. Il avait d'ailleurs tout gagné au moment de sa chute. Et là, justement, pour revenir à Julien, Evenepoel, il a mis un an à revenir. Il a été arrêté 6 mois, il a mis un an à revenir, et même ce début de saison, il était
c'est
bien...
C'est pas la même blessure non plus. Hein.
Non, pas les mêmes blessures non plus, mais début de saison, il est là, mais dès qu'on est vraiment dans le dur, dans la castagne, dans les petits cols espagnols, eh bien, il saute. Mais il est quand même présent, il emmène les sprints à Julien, tout se passe bien. Et puis, sur la doyenne, il a retrouvé toute sa facilité. Et là, c'était absolument extraordinaire. Enfin, quand tu regardes les images, tu te demandes s'il y a un moment, il force. Quoi.
Alors, juste... Il a quand même un style tout en force, moi, je trouve. Juste ouais, très ramassé sur le vélo.
Oui.
Petite bulle.
Ah non, il est très bien posé.
C'est incroyable, hier, ce qu'il fait dans la côte de la Redoute. C'est hallucinant. La sortie, souvent, on parle d'attaques qui ne sont pas tranchantes. Celle-là, Julien, tu l'as vu toi aussi, elle était ultra tranchante. Quoi.
Et le pire dans cette attaque, c'est qu'en fait, tout le monde sait qu'il va attaquer là. Mmh. Parce qu'il est dans la rue, il est dans la roue. Tout le monde sait qu'ils arrivent en haut du sommet. Et il se dit, bon, au bout d'un moment, il va y aller. Et il y va, tout le monde essaye de s'accrocher. Mais personne ne peut accrocher sa roue. Même quand il part, la route a l'impression qu'il dérape tellement il part fort dans la côte. Sa roue arrière, elle chasse. Non, mais il a remis.
Ça rappelle un peu ce que fait Pogacar. Hein,
Une sacrée mine. Ouais. Et dans la Rochefaucon, c'est pareil d'ailleurs. Il rattrape Benoît Ramirail, qui est le dernier rescapé de l'échappée matinale au bas de la Rochefaucon. Derrière, bon, la Rochefaucon, t'as quand même des passages à 14-15%. Il met tout à gauche, Remco Evenepoel, développement minimaliste, on va dire, pour pouvoir vraiment envoyer. Il lâche à la pédale, mais vraiment, enfin, naturellement, Bruno Ramirail. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'était prévu hein, de la part de l'équipe Quickstep, parce que Remco Evenepoel donc, est un coéquipier de Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe était a priori la cartouche numéro 1, mais Remco Evenepoel avait, selon le briefing matinal de ses directeurs sportifs, tout pouvoir de faire ce qu'il a fait. Et c'est-à-dire que c'est vraiment précisément, il a fait ce qui était prévu dans le briefing matinal.
Donc,
c'est-à-dire,
si Alaphilippe n'était pas tombé, il n'aurait jamais rattrapé.
Je ne sais pas, mais en tout cas, si Alaphilippe n'était pas tombé, avait été dans le groupe des favoris, il aurait laissé tranquillement Remco Evenepoel partir. Et là, débrouille-toi derrière pour aller à sa chasse. Le problème, c'est qu'on a vu que personne n'était capable de le faire. Et même une équipe Bahreïn, qui pourtant, elle a été entièrement épargnée par cette chute.
Avec un Dylan Teuns qui est quand même en pleine forme après avoir remporté la Flèche Wallonne cette semaine. Evenepoel qui n'a que 22 ans, on le rappelle.
Et 89
jours. La question que je me pose, y compris d'ailleurs à l'arrivée, mais Arnaud pourra peut-être apporter des éléments complémentaires, est-ce qu'il est au courant pour Julien ?
Oui, il est au courant. En fait, on lui a expliqué dans l'oreillette quelques minutes après que Julien Alaphilippe était tombé. On ne lui a pas dit tout de suite, mais on lui a dit quelques minutes après la chute que Julien Alaphilippe, effectivement, avait chuté.
Oui, mais on ne lui a pas expliqué. Non, de toute façon, c'est pas.
Non, on lui a dit qu'il avait une grosse chute, mais il ne connaissait pas exactement le détail, effectivement, des blessures.
Parce que à l'arrivée, on n'a pas le sentiment. On n'a pas le sentiment qu'il s'inquiète pour Julien.
Non, mais parce qu'aussi à ce moment-là, il y a eu des nouvelles rassurantes hein, qui ont été communiquées au sein même de l'équipe Quickstep qui expliquait voilà, quand même que Julien Alaphilippe était conscient, qu'il pouvait bouger les jambes, etc. etc.
Alors, je le disais, Evenepoel n'a que 22 ans et pourtant on vous en parle depuis des années. Il faut dire, Julien, que le garçon a montré des aptitudes incroyables avec une précocité tout aussi incroyable.
Hein. Oui, attention, phénomène là. Après Van Der Poel, Van Aert, Pogacar place donc à Evenepoel, très vite baptisé, trop vite peut-être le nouveau Merckx, le petit cannibale, lui pourtant qui n'a commencé le vélo qu'à 17 ans. Plus intéressé dans sa jeunesse par le ballon rond que par les petits trous, et à l'image de Roglic sur le saut à ski, lui aussi taquiné dans son domaine, capitaine de la sélection belge des moins de 15 ans, milieu de terrain infatigable, capable de répéter des efforts pendant longtemps, ce qui doit expliquer ce plaisir de l'effort solitaire sur le vélo, exercice dans lequel il excelle, champion d'Europe en 2019 et vice-champion du monde la même année. C'est donc en 2017 qu'il a rangé les crampons définitivement pour enfiler le cuissard et suivre les traces de son père, ancien coureur professionnel, et très vite il a commencé à gagner, à tout gagner, voire à écraser la concurrence. Des démonstrations pour des débuts fracassants, comme lors des championnats d'Europe junior en 2018. Il attaque à 100 km de l'arrivée pour terminer avec 10 minutes d'avance sur son dauphin. Un phénomène que Quickstep recrute très vite, dès 2019, où il remporte d'ailleurs la Classica de San Sébastien et devient le plus jeune coureur à remporter une course World Tour. En 2020, il s'aligne sur 4 courses à étapes, le Tour de San Juan, de l'Algarve, de Burgos et de Pologne, pour un résultat identique. Une victoire finale avec souvent un succès dans le chrono ou une victoire d'étape après un raid solitaire. Le petit Belge a l'impression que tout est simple, qu'il gagne dès qu'il se présente sur la ligne de départ. Sa chute à Lombardie va l'arrêter brutalement. Mais preuve de la confiance de Lefebvre, peu après son retour sur les routes en 2021, il signe un contrat longue durée jusqu'à 2026. Et le succès d'hier prouve qu'il ne s'est pas trompé. Evenepoel sauve la saison des classiques pour Quickstep. Et la Belgique croit aussi en lui pour succéder à Van Niep, dernier vainqueur belge de la Grande Boucle.
Très bien, Remco Evenepoel, donc la jeune relève belge, tu voulais ajouter.
J'ai une petite statistique quand même, oui. Qui est assez hallucinante, il faut remonter, et Cyril Guimard s'en souvient certainement, à Jean-Pierre Monseret, 1969, au Tour de Lombardie, pour retrouver trace d'un vainqueur plus jeune de monument que Tadej, que Remco Evenepoel. Voilà. Il fait mieux que Tadej Pogacar, ouais, et mieux que Bernard Hinault.
Bernard Hinault aussi, voilà. Qui avait triomphé très
jeune. Et je pense par contre que Eddy Merckx est plus jeune, a gagné son premier monument plus jeune que Remco Evenepoel. Il faudrait vérifier
bon,
ça.
Eddy Merckx, à qui on prend son nom de famille, son surnom de cannibale.
Oui. On le donne à tout le monde, hein, cannibale en ce moment.
Pogacar aussi. Baby cannibale, c'est Pogacar. Et le nouvel Eddy Merckx, c'est
Remco Evenepoel. Sacrée génération quand même en ce moment.
Il ne fait pas pour se promener dans la rue maintenant avec tous les cannibales qu'il y a.
Qu'est-ce qu'on est passéiste alors, c'est incroyable.
Evenepoel, qui on l'a évoqué tout à l'heure, avait donc chuté dans cette descente du Tour de Lombardie. On a eu très très peur pour lui ce jour-là. Il a dû apprendre à redevenir un champion. Ça a été long, douloureux, et la victoire d'hier n'en est que plus belle. On l'écoute tout de suite. Ça a été tout simplement la plus belle journée de sa carrière de coureur cycliste.
Ouais, je pense qu'aujourd'hui j'avais ma meilleure journée de ma carrière, donc je pense que c'est parfait d'avoir cette journée avec les meilleures jambes. Non, je pense que je suis vraiment vraiment fier et l'équipe aussi, on peut être fier. C'était une période de classique vraiment difficile pour nous et on a toujours cru qu'on pouvait gagner une classique et voilà, quelle manière de finir cette période et pour commencer la deuxième partie de la saison, c'est incroyable et ma course préférée de l'avoir gagnée dans ma première participation, c'est incroyable et là je vais essayer de profiter de cette soirée mais ça va être une longue soirée, c'est sûr.
Sympa, hein, il a l'air très sympa.
Il est super sympa, ouais. Remco Evenepoel, c'est un coureur vraiment et pourtant il en a bavé, hein, parce qu'il faut se souvenir, les Jeux Olympiques à Tokyo l'an passé, il a été critiqué par toute la Belgique du vélo qui estimait qu'il n'avait pas fait le travail pour que Wout van Aert devienne champion olympique. Il y a eu derrière les championnats du monde.
Moi, je le trouve plus sympa que Van Aert, hein, personnellement.
Ah ben, il est beaucoup plus sympa et beaucoup plus ouvert que Van Aert. Mais vraiment, il n'est pas très rancunier, parce que je peux vous dire que quand il a sa médaille au championnat du monde en contre-la-montre, il vient voir toute la presse, il accepte de s'exprimer en français, alors que ce sont des gens qui l'ont beaucoup critiqué en Belgique. Son père, d'ailleurs, s'en était épanché auprès de nous. Patrick Evenepoel, il nous en avait parlé juste après. Voilà, il est pas très rancunier, non, super sympa, très bon garçon, franchement, super accessible, chapeau à lui.
Alors, Evenepoel qui a beaucoup de talent, on l'a dit, tous les talents, notamment le talent du chrono, hein, c'est un maître du contre-la-montre. En revanche, en haute montagne, est-ce qu'il est déjà au même niveau que Pogacar, que Roglic, Cyril, où il lui manque encore une petite marche à franchir pour espérer rivaliser dans les grands tours avec les tauliers du moment?
Moi, je pense qu'il a, il a les qualités pour rivaliser avec les plus grands. Rappelons, il a repris la compétition l'an dernier au mois de juin.
Avec le Giro.
Ce qu'il avait gagné avant, Julien l'a évoqué tout à l'heure, toutes les courses qu'il a gagnées étaient des courses où il y avait de la montagne. Et toutes ces courses où il y avait de la montagne, il a fait la différence sur tous les autres grimpeurs qui étaient présents. Mm-hmm. Mais ça remonte à 2 ans.
Oui.
Deux ans après, là, il retrouve son potentiel initial. Moi, je ne vois pas pourquoi. Surtout quand on a une VO2 max telle que la sienne, c'est-à-dire une capacité à rouler vite contre la montre. Si votre rapport poids-puissance est bien équilibré, si vous n'avez pas de kilos en trop, il passera avec les meilleurs. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué, y compris d'ailleurs hier, mais qu'on avait déjà vu sur ses courses précédentes, c'est que sa chute du Tour de Lombardie, parce qu'il était... Il était très mauvais descendeur. Eh bien, on pouvait se dire qu'il allait avoir encore de l'appréhension, peut-être même davantage. Eh bien, OK, c'est pas un voltigeur des descentes. Mais aujourd'hui, Vous ne le lâchez pas, vous ne lâchez pas dans une descente. Regardez hier, ça virait très vite. C'était au cordeau, c'était propre, les trajectoires étaient propres. Ce qui veut dire qu'indépendamment de ça, il a donc dû travailler pour retrouver, pour trouver les vrais ingrédients qui fait qu'on n'est jamais hors trajectoire et qu'on est toujours à la bonne vitesse avec le bon freinage d'entrée. C'est inconvénient parce que, souvenez-vous, sur le Tour de Lombardie avant qu'il tombe, je l'ai annoncé avant en disant « Oh là là, il est hors trajectoire, ça va pas. » Bon, et là, d'un seul coup, il est arrivé dans un virage hors trajectoire, freinage hasardeux, et il tombe en passant moins vite que les premiers, entre autres le groupe Nibali. Donc là, il a retrouvé de l'aisance, de la confiance dans les descentes. À 22 ans, avec les chevaux qu'il a sous le capot, vous inquiétez pas, ça passera.
Je rappelle qu'il a chuté au Giro après Cyril en plus l'année dernière. Quand il reprend le Giro, il rechute dans descente l'année dernière.
Ouais, il avait pas encore.
Mais bon, il a retrouvé. Mais bon, c'était une erreur pour moi le
de la le de la ligne si tôt dans un grand tour. Ouais.
Non, alors, mais il était pas prêt.
Il n'était pas encore prêt, ni dans la tête ni dans les jambes. Arnaud, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le programme de Remco? Quand le verra-t-on sur le Tour de France? Pas cette année, a priori.
A priori, c'est pas cette année parce qu'il est plutôt prévu qu'il dispute la Vuelta. Cette année, là, normalement, sa prochaine course, ça sera après le stage en altitude en Sierra Nevada, le Tour de Norvège à la fin du mois de mai. Ensuite, il y aura le Tour de Suisse. Et puis, par contre, on le reverra sur la Classique à Saint-Sébastien après le Tour de France. Mais a priori, donc, pas de Tour de France. Il faut bien quand même mettre des gros guillemets et toutes les précautions d'usage, étant donné ce qui aussi est arrivé à Julien Alaphilippe.
Julien n'est pas au départ du Tour. Rien, il faudra un leader à Lefebvre. Hein.
C'est dommage que peut-être qu'ils ont des leaders pour gagner le Tour de France, mais ils veulent pas le gagner.
Mais parce que c'est pas dans leur ADN. C'est pas dans leur ADN. Patrick Lefebvre, non, il en veut pas.
Ouais, il en veut pas du Tour de France, ça l'intéresse pas.
La grande boucle, c'est pas pour lui.
Il préfère gagner le Tour des Flandres.
Mais il a raison. Moi, ça m'intéresse. Van Imm reste le dernier vainqueur du Tour de France.
Bon, un jour, quand même, avec un tel coureur, il va être obligé de se dire pourquoi pas viser la victoire. Même si, évidemment, c'est une formidable équipe, la Quick-Step. Mais elle n'est pas tout à fait staffée pour
espérer. Elle n'est pas taillée pour gagner le Tour de France.
C'est ça la question, en fait.
J'arrive pas à répondre à cette question en fait. J'arrive pas à me convaincre qu'elle n'est pas taillée pour gagner le Tour de France. Je pense que s'ils ont envie de gagner le Tour de France et si Patrick Lefebvre a envie de sacrifier ses 19 victoires par exemple depuis le début de la saison pour gagner le Tour de France, il le fera. Après, voilà, c'est une question aussi de culture. J'en reviens toujours à ces Belges qui disent « Vous avez le Tour de France, on a le Tour des Flandres
». Mais c'est pas anodin hein, cette phrase.
Mais cette phrase, elle est vraie, elle est véridique. Les Belges, ils vibrent moins pour le Tour de France que nous. Alors après, évidemment, ça les empêche pas.
Pour les sponsors. Internationaux.
Mais les sponsors,
ils en ont.
Mais je suis pas sûr que les sponsors en aient tant que ça. Surtout qu'en plus, les sponsors, Quickstep fait partie quand même de l'aventure Netflix. Fait partie des équipes qui seront avec l'aventure Netflix. Et ça les empêche pas de briller parce que tous les ans, soit t'as Julien Alaphilippe qui passe 15 jours en jaune, soit t'as Marc Cavendish qui égale le record de Merckx de victoire sur le Tour de France. Enfin, t'as toujours quelque chose en fait avec Quickstep.
Oui, même sur les grands tours, ils les gagnent pas. Mais c'est eux qui sont à l'actu.
Ouais, bon alors, je veux bien, ok, c'est pas leur culture, mais Evenepoel un jour, s'il a vraiment les qualités qu'on lui donne, un jour il aura envie de le gagner.
En plus, vous pouvez dire, il a signé jusqu'à 2026, donc t'imagines quand même, jusqu'à 2026, si Lefebvre dit non, mais tu iras jamais au Tour de France, ça va lui paraître long le temps.
Non, mais là, ne vous faites pas de soucis. Un gamin à 22 ans, même s'il est belge flamand, je dis même pas wallon ou bruxellois, il y a un moment, il voudra être dans le tour. Regardez par exemple Wout van Aert l'an dernier, depuis deux ans sur le tour, il est plus que brillant. Donc on a envie d'égaler ses aînés. Et puis de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, vous pourrez me fusiller à l'eau chaude. Grande épreuve du monde, celle qui donne le plus de notoriété, c'est le Tour de France. Faut pas se raconter
d'histoire. Même pour les Belges,
le Tour des Flandres, ça dure un jour.
Ouais.
Le Tour de France, ça dure 21
Écoute,
jours.
Écoute, moi, j'invente rien quand Remco Evenepoel dit ma course préférée, c'est Liège-Bastogne-Liège.
Non, mais tu ne l'inventes pas. Non, mais qu'ils le disent.
D'ailleurs, t'as pas beaucoup de Français qui disent ma course préférée, c'est le Tour de France. Soyez en passant.
Personne n'aime le Tour. Tu l'aimes quand tu le gagnes ou quand tu brilles sur le Tour de France. Mais c'est pas une course évidente. Il y a une pression terrible. T'as les médias qui t'embêtent. Il y a Arnaud Souk qui sont là.
Faut quand même avouer
qu'ils posent des questions tout le temps.
Faut quand même avouer que c'est une plaie.
C'est une plaie qui taille les coureurs tous les soirs dans l'intégral Tour. Non, mais c'est sûr que t'as pas envie de le
faire. Qui est en chemise, qui est sans chemise, nu, quand il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas de clim dans le camion RMC.
Très bien. Après ça, nous on l'adore le Tour de France et on va se régaler au départ à Copenhague.
Non, finalement on fera que Liège-Bastogne-Liège que c'est la plus grande course du monde.
un mot, messieurs, pour terminer sur Thibaut Pinot qui a donc renoué avec la victoire la semaine dernière en remportant une étape du Tour des Alpes. 1007 jours après son dernier succès, est-ce que ça peut déclencher quelque chose. Moi, est-ce que, alors, on se posait la question dans les grandes gueules du sport, savoir si le grand Thibaut Pinot était de retour. On a modéré quand même nos ardeurs, les ardeurs de certains, mais ça peut quand même changer de choses.
Moi, je vais passer la parole à mes copains, je vais juste dire que c'est
manqué. Oui, mais parce que toi, t'es tellement fan absolu.
Non, c'est manqué de respect à Romain Bardet que de ne pas évoquer la victoire de Romain Bardet. Personne n'en a parlé, et Romain Bardet pourtant a gagné le classement général, et ça me semble être une performance de bien plus grande taille que la victoire de Thibaut Pinot, sans faire offense à Thibaut Pinot.
Ouais, mais Romain revient de moins loin que Thibaut, c'est pour ça qu'on a évoqué le cas de Thibaut Pinot. Romain, il est dans le coup depuis l'année dernière, son transfert, on en a beaucoup parlé. Là, c'est vrai que Pinot, on se demandait s'il était encore
en cycliste. On a l'impression que psychologiquement, ça va lui déclencher quelque chose. Quand on le voit en larmes la veille parce qu'il termine deuxième et qu'il se voyait gagner, et je pense que psychologiquement, il s'est dit « j'y arriverai plus », et cette victoire le lendemain, psychologiquement, elle peut lui enlever beaucoup de freins. Alors après, est-ce que le grand Thibaut est de retour ? Je sais pas, mais au moins un Thibaut Pinot offensif qui se pose plus de questions sur ses douleurs, qui doute plus sur ses capacités à gagner une étape, je pense que là ça va lui faire un bien fou et que les prochaines courses où il va s'aligner, il va se dire je suis capable de le faire. Alors après évidemment on aimerait tous que le grand Thibaut Pinot soit de retour pour le Tour de France cet été, vu que Cyril nous a dit que Julien serait pas là. Ouais. Au moins qu'on ait Thibaut, qu'on en ait au moins un des deux.
Ouais,
non,
ouais.
Mais psychologiquement je pense que ça va lui faire un bien fou et Cyril il va être sûrement d'accord, mais d'arriver à lever les bras après 1000 jours, alors qu'il y croyait peut-être plus, je pense que psychologiquement, c'est déjà une énorme victoire.
Mmh. Cyril ?
Oui, non, mais alors, il y a plusieurs volets dans ce qui s'est passé sur le Tour des Alpes. D'abord, le grand bonhomme du Tour des Alpes, et Arnaud l'a souligné, c'est pas sportivement parlant, c'est pas Thibaut Pinot qui gagne une étape du Tour des Alpes, ok, mais c'est celui qui gagne la course. Et qui a été, on va dire, un petit peu mis de côté pour revenir uniquement sur le cas Pinot. Pinot, en fait, il fait quoi ? Il part deux fois dans l'échappée. Les deux fois, il est le meilleur de l'échappée. La première fois, il se fait rejoindre à 1,5 km de l'arrivée. Il se fait battre. On est dans une logique totale. Mais déjà, qu'il soit là, c'était vraiment très bien. Le lendemain, il repart dans une échappée. Et là, il est le meilleur de l'échappée. Il va gagner. Bardet, il a gagné l'ensemble de la course. Mmh. Et en plus, avec la manière, sans faire de faute, en faisant exploser tout le monde, c'était du très grand Romain Bardet. Après, il y a tout le côté émotionnel. Et là, sur le plan de l'émotion, celui qui a gagné, c'est Thibaut Pinot. C'est clair. Parce qu'il y a toute une histoire derrière lui, etc. Mais est-ce que le coureur, grâce à ce qui s'est passé sur ces deux jours, va changer fondamentalement ? Est-ce qu'il va changer sa façon et sa conception de vivre, sa structure mentale, ses rapports au sport et avec le public et avec les médias ? Est-ce que tout ça, ça peut évoluer ? Il a 32 ans, je ne pense pas. Or, si on regarde l'ensemble de sa carrière, on se rend compte qu'elle a toujours été en dents de scie pour un milliard de raisons. Mais est-ce que ce qui s'est passé depuis le début de sa carrière peut faire qu'aujourd'hui, il redevienne le Thibaut Pinot dont on connaît le potentiel, et est-ce qu'il aura la constance ? Ça, je n'en suis pas certain. Mais de toute façon, rien ne pouvait lui faire plus de bien que cette victoire.
Et Thibaut Pinot qui s'alignera dès demain dans le Tour de Romandie. Thibaut Pinot qui a 31 ans, pas encore 32 ans. Hein, encore
oui,
31.
Mais dans combien de temps il a 32
gens, toi ? Oh, bientôt, mais pour l'instant, c'est que 31. Donc,
dans voilà. 28 jours, je crois.
Bon, on verra en tous les cas ce que ça donne sur le Tour de Romandie, qui est quand même un niveau au-dessus du Tour des Alpes en matière de de renommée et en matière de plateau, puisqu'il y aura du beau monde au départ demain en Suisse. Bon, ben, on espère hein, que Thibaut, que Romain et tous les autres vont briller.
Bardet, lui, sera sur le Giro.
Et Bardet sera sur le Giro à partir du 8 mai, je crois. Ça part de Budapest le 8 mai prochain. Voilà, bah, y a encore plein de belles courses avec plein de Français qui vont briller. Et évidemment, on espère que notre Julien va se remettre le plus vite possible et qu'il sera, n'en déplaise à Cyril, au départ du Tour de France. Merci les garçons. À la semaine prochaine pour une
belle S'il peut y être, tant mieux, c'est que tout s'est bien passé.
Exactement. La bise et à lundi prochain pour une nouvelle édition de Grand Plateau.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.